Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
La méditation sur le hasard qui a fait rencontrer mon père et ma mère est plus salutaire que celle sur la mort, écrit Simone Veil. Simone Veil, avec un W, qui est une philosophe chrétienne née en 1909 et morte en 1943, à ne pas confondre avec Simone Veil Inselvé, rescapée des camps de la mort nazie, puis ensuite ministre. Alors, que dit la philosophe Simone Veil dans La pesanteur et la grâce ? Elle nous appelle à méditer sur le hasard de nos origines parentales et donc de notre identité. C'est ce hasard originel qu'une sorte d'anti-humanisme contemporain voudrait remplacer par une maîtrise technique de la naissance telle que la PMA. Jouons le jeu de cette méditation philosophique. Mon père et ma mère auraient très bien pu ne jamais se rencontrer. Je n'existerais donc pas. Ma mère aurait pu se lier à un autre homme que mon père. Je n'existerais pas non plus. Ma conception aurait-elle pu avoir lieu un autre jour, à une autre heure ? Non, car mon identité est en grande partie dans mon génome, et de minute en minute, l'embryon conçu n'a pas la même identité génétique. Alors, puis-je dire qu'à une autre heure de ma conception, de ma soi-disant conception, j'aurais été différent, j'aurais été un autre. Non, je ne serais pas un autre, mais il y aurait eu quelqu'un d'autre que moi. Moi, je n'existerais pas. Je ne peux même pas dire que ce serait mon frère ou ma sœur, puisque je n'existe pas. Bref, je proviens non d'une nécessité, mais d'un concours de hasard, celui de la rencontre de mes parents, celui de la course-poursuite des spermatozoïdes, etc. J'avais peu de chances d'exister, peu de chances d'être moi. Cette contingence étonnante est un fait anthropologique fondamental. En particulier, je ne peux accuser personne de ce que je suis par nature. Je suis le fait du hasard. Certes, comme dira Merleau-Ponty, je peux, c'est vrai, affirmer ma liberté en m'assumant, en devenant activement ce que j'étais par hasard. Mais l'origine, je n'y suis pour rien. Et personne n'y est pour rien. Du moins, en ce qui concerne mon patrimoine génétique, mon ADN. On ne peut pas en dire autant de la PMA. En plus des géniteurs, plus ou moins effacés dans la PMA, surtout le père, il y a le généticien qui, lui, agit volontairement, rationnellement, scientifiquement, médicalement. Devenu adulte, l'enfant de la PMA est partiellement le fruit du hasard et partiellement le fruit d'un artifice. Et d'un artifice volontaire. Par exemple, le fait d'être né sans père, sans partenaire sexuel de la mère, c'est le cas d'un tiers d'honneur dans la PMA, n'est pas un hasard, c'est pas du tout un hasard, mais une préméditation génétiquement déterminante. Mais peut-être que ça n'a pas d'importance. Beaucoup d'enfants n'ont pas de père, souvent encore aujourd'hui par les hasards de la vie, et ils deviennent cependant des adultes équilibrés. Néanmoins, et c'est ça qui est bizarre, la loi bioéthique n'en est pas convaincue. Elle n'en est pas elle-même convaincue. Ses défenseurs, oui, mais le texte de la loi, du projet de loi, se contredit. Il prévoit que désormais, l'enfant de PMA, devenu adulte, pourra obtenir des informations sur son père biologique, sur son père génétique. N'est-ce pas la preuve ? N'est-ce pas la preuve que le projet de loi lui-même, et pas simplement ses opposants, est conscient du désir éventuel de connaître son père, le père pourtant volontairement écarté jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans. Et là, ce n'est pas le hasard, la PMA est responsable. Mais il y a peut-être pire en germe dans cette loi bioéthique. D'abord, son article 14 est inquiétant. Il distingue la recherche sur embryon, qui est jusqu'ici très encadrée, et la recherche sur cellules souches de l'embryon, qui, selon la loi, poserait moins de problèmes éthiques. Mais c'est à n'y rien comprendre. Dans les deux cas, recherche sur l'embryon ou bien recherche sur ces cellules souches, implique chaque fois la mort de l'embryon humain. Où est le moindre mal éthique ? Mais ces recherches, c'est pourquoi ? Pourquoi faire ? On peut admettre, et même se féliciter, que par une manipulation génétique, des maladies très graves peuvent être évitées sans dégâts collatéraux, encore qu'on ne connaît pas bien les éventuels dégâts collatéraux. Mais la frontière entre la médecine préventive légitime et l'eugénisme qui est interdit, cette frontière est mince. C'est ainsi que cette année, une équipe chinoise a opéré une manipulation génétique sur les embryons de deux sœurs jumelles qui sont d'ailleurs nées depuis et qui vont bien. Le but peut être honorable. Le but de ces chercheurs chinois, c'était de renforcer l'immunité contre le sida. Mais en même temps, et c'est les Chinois qui le disent, cette manipulation génétique est censée renforcer la capacité cérébrale. Là, nous ne sommes plus dans le rôle de la médecine, c'est-à-dire guérir, prévenir, mais on est dans le changer l'espèce humaine, qui n'est pas le but de la médecine. L'article 16.4 du Code civil français spécifie, et il est toujours valable, cet article 16.4. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Cette loi est confirmée en 1997 par l'UNESCO et par la Convention européenne d'Oviedo la même année. Pourtant, la loi bioéthique, n'interdit que deux sortes de manipulations génétiques. Celle des croisements transgéniques avec des espèces animales, c'est quand même le moins qu'on puisse interdire, hein, et celle qui se transmettent à la descendance, à toute la descendance. Mais sait-on vraiment ce qui va ou non se transmettre à la descendance ? Il n'y a pas que la garantie d'intégrité de l'espèce humaine. Il faut prendre en compte l'intégrité de la personne humaine. Attention, une manipulation génétique de l'enfant à naître, au nom des modes culturelles, des formes d'intelligence et de beauté, ou en fonction du goût des parents, eh bien cette manipulation génétique de l'enfant à naître est un viol. Un crime encore plus grave que le viol sexuel. C'est une pénétration dans l'intimité, sans consentement de l'enfant à naître, et pour le transformer à jamais. C'est la définition la plus horrible du viol, qui est toujours une horreur. La loi se dit tout à fait contre l'eugénisme. Mais pourtant, Son article 17, interprété, peut-être un jour, par des chercheurs déviants et des avocats pervers, ne rendrait-il pas possible la manipulation génétique de l'espèce humaine, bien intentionnée, hein, comme l'équipe chinoise, qui était bien intentionnée et pourtant moralement criminelle. L'artificiel est bénéfique quand il guérit les maladies de la nature. L'artificiel est maléfique quand il casse la nature. On a commencé par comment faire l'amour sans faire d'enfant. Puis, on a continué par le contraire, comment faire des enfants sans faire l'amour. Jusqu'où ira-t-on ? Revenons à Simone Veil pour terminer. La méditation sur les hasards de mes origines génétiques, il en résulte, nous l'avons dit, la possibilité de s'assumer sans nous en prendre à quiconque sur notre sort. Avec un peu de PMA et beaucoup de risques de manipulation génétique, il va devenir impossible à un enfant de s'assumer. Ce qu'il est devenu, ne devrait pas être lui. Préserver plus les droits de l'enfant que les droits à l'enfant devrait être notre boussole.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.